Good morning again, everyone.
Bonjour. Encore une fois, je vous prie de prendre vos places pour commencer avec l'équipe de révision du WHOIS.
Good morning, everyone.
Bonjour. C'est une session du GAC avec l'équipe de révision du WHOIS. À ma droite, Billy Taylor, qui est la présidente de l'équipe de révision du WHOIS. Peter d'Australie, qui représente la présidence du GAC dans l'équipe de révision, et aujourd'hui, nous allons parler sur le rapport définitif et d'autres recommandations. Je passe la parole à Emily pour qu'elle nous fasse une introduction au sujet pour puis mener une discussion. Merci, Heather. En représentation de l'équipe de révision, je tiens à remercier le GAC du soutien et de la participation pendant tout le processus de travail de l'équipe de révision. C'est la troisième fois que nous sommes ensemble et nos interactions sont très utiles. Nous voulons signaler également l'énorme apport de l'Australie en termes du travail de rédaction, outre l'apport de cohésion à l'équipe. Avant de passer à la présentation, je voudrais signaler ce que nous allons faire. Tel que tu le disais, Heather, pour cette session, nous avons préparé quelque chose que nous pensons utile. Je m'excuse de la répétition si vous l'avez déjà lu, mais nous pensons que c'est bien de revoir un tout petit peu notre travail en tant qu'antécédent. Nous espérons aussi avoir une interaction, qu'il y ait des questions-réponses que nous allons répondre avec plaisir. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Le rapport de la version préliminaire a été publié en décembre 2011. Étant donné le délai entre les réunions de l'ICANN, nous avons pensé utile de laisser une période ouverte jusqu'à la fin de cette réunion pour qu'il y ait l'interaction de la communauté et voir les décisions ainsi que préparer le rapport définitif dont la publication est prévue pour le 30 avril. Lundi, je crois que le GAC est familiarisé avec tout cela, qui est le GAC qui a participé à la déclaration des engagements avec l'ICANN. On a dû évaluer la politique de WHOIS et sa mise en place. Tout cela doit être cohérent avec les organismes d'application de la loi et nous visons à ce que le public ait confiance. la composition entre les communautés, il y a des représentants des organismes d'application de la loi et des domaines aussi. Il faut mettre l'accent sur le fait que la discussion du JUIS a lieu au sein de l'ICANN pendant la dernière décennie. Nous sommes fiers de dire que toutes les recommandations du rapport préliminaire ont été prises à l'unanimité avec un consensus total. Ce que nous allons faire, c'est revoir un peu notre travail et la manière dont on arrive aux recommandations. Le mandat pour évaluer la mesure ou la politique du JUIS a été efficace implique que la première tâche consiste à identifier la politique. Nous voyons des références dans la déclaration des engagements et il y a des dispositions, des détails qui sont établis dans le rapport pour lequel Calvin Kleinman a beaucoup travaillé. On voit les contrats de registre, les contrats des bureaux d'enregistrement, le consensus obtenu ainsi que les procédures soulignent les antécédents des RFC et l'histoire du débat lui-même. Toutefois, il n'y a pas de déclaration claire sur cette politique. Voici donc notre première recommandation et qui dit que la politique présentée ici, c'est-à-dire il ne faut pas changer cette politique. Tout simplement, ceci n'est pas documenté. Et pour les gens qui sont en dehors du monde de l'ICANN, tout cela devient confus. Si l'on considère les équipes du JUIS qui vont continuer à travailler, nous pouvons épargner du travail à la prochaine équipe si nous travaillons sur ces recommandations pour que cela soit déjà prêt à l'utilisation. La mise en place de la politique nous amène à parler des gens qui se consacrent à la conformité au sein de l'ICANN. Ils nous ont raconté leur manière de travailler. Les membres de notre équipe sont allés dans leur bureau et l'une des interventions du JUIS consiste à vérifier que les messages annuels de données, de rappel de données, soient envoyés à tous les registrants et tous les bureaux d'enregistrement tous les ans. Nous pouvons vous donner des antécédents sur cette politique et nous croyons que l'intention est d'améliorer la qualité des données en prenant contact avec les bureaux d'enregistrement et avec les noms de domaine. Nous avons 100 noms de domaine et nous avons 100 messages par an pour que les données JUIS soient mises à jour constamment. Il y a deux manières de faire un suivi pour évaluer l'efficacité de tout cela. Nous pouvons dire la quantité de bureaux d'enregistrement qui sont obligés à envoyer ces messages. La réponse est simple, pratiquement tous. Cependant, si, étant donné l'objectif de la politique, à savoir promouvoir la qualité des données et leur amélioration, malheureusement, on ne trouve aucune unité de mesure pour pouvoir justement mesurer ces notifications. Bref, il s'agit d'un grand effort consacré à ce travail. Il y aura peut-être des meilleures données, mais nous ne le savons pas avec certitude. Nous recommandons de fermer ce gap de qualité et améliorer la qualité des données et si nous ne pouvons pas le faire, nous devons reconsidérer cette politique pour voir si elle atteint vraiment les objectifs prévus et traiter les processus appropriés ainsi que mettre en place une nouvelle politique. La suivante, s'il vous plaît. Nous parlons de ceci aujourd'hui au forum public. Hier, nous devons toujours réussir à rédiger notre rapport final, mais l'équipe de révision considère que c'est la priorité la plus importante de cette recommandation. Au long de notre travail pendant la dernière année, il y a beaucoup de parties prenantes au sein de l'ICANN et ailleurs qui ont travaillé. On peut penser à des améliorations des politiques, c'est-à-dire on peut utiliser la politique actuelle pourvu que la politique soit efficace. L'impression que nous avons des parties intéressées, des organismes d'application de la loi et des entreprises, c'est que personne ne prenait des mesures pour faire respecter le contrat. Ceci n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a une équipe de conformité au sein de l'ICANN. Ils avaient peu de ressources, peu de personnel et il n'y avait pas de vision stratégique pour faire ce travail. Ce département, avec peu de ressources, travaillait de manière réactive. Ils luttaient comme ils pouvaient pour faire leur travail. Mais c'était difficile d'arriver à faire un bon travail avec les ressources stratégiques peu nombreuses. Il y avait des aspects positifs de la conformité du personnel. L'idée était de créer la culture de la conformité tout à fait appropriée parce qu'il y a une base de données et aussi des responsabilités. En ce moment, notre analyse signale que c'est toujours un objectif, mais qui n'est pas encore respecté. Nous recommandons que l'ICANN place le WHOIS comme une priorité stratégique centrale. Et si vous regardez la rédaction de la recommandation, eh bien, je voudrais faire un petit commentaire. Et nous sommes ici avec le GAC et nous voulons dire que le WHOIS est indispensable pour établir la manière de travailler parce que le WHOIS doit être établi par les contrats, par les bureaux d'enregistrement et pour le registre. Si les clients ne leur paient pas, eh bien, ils ne vont pas recevoir le service. Nous avons trouvé dans notre recherche qu'il y a une conscience de la part du consommateur dans le sens que les consommateurs ne sont pas les utilisateurs principaux de ce service. Les utilisateurs principaux sont, d'après nous, les organismes d'application de la loi et ceux qui appliquent les droits de manière privée. Nous voyons donc une gamme classique d'un environnement d'autorégulation et nous nous demandons jusqu'à quel point ceci fonctionne comme il faut. L'équipe de l'ICANN peut être autorégulatoire, mais je n'ai pas un meilleur terme pour décrire cet environnement. Le WHOIS fonctionne et je crois que dans ce sens, l'environnement est effectif. Si cela ne fonctionne pas, s'il n'y a pas de volonté pour appliquer les dispositions contractuelles, s'il n'y a pas des encouragements spécifiques pour ce faire, c'est donc une épreuve, un test pour nous, pour voir si ça fonctionne vraiment bien. Voici la raison pour laquelle nous voulons clarifier que le WHOIS doit être quelque chose de stratégique pour la communauté. Je crois que dans tout environnement à but non lucratif, il est toujours bien d'avoir plus de diffusion ou de sensibilisation. Ceci, quelques-uns des collègues ne pourraient pas être d'accord avec nous, hein, mais les organismes d'application de la loi ne sont pas encore bien installés. Si vous observez la communauté de l'ICANN comme un tout. Vous devrez aller ailleurs pour parler aux spécialistes de la protection de la loi ou aux organismes d'application de la loi. Comme nous allons voir, la recherche des consommateurs a découvert qu'il y avait très peu de conscience sur le juice lui-même chez les consommateurs. Il pourrait s'agir d'un produit non destiné aux consommateurs. Si nous pensons au rôle de juice pour ce qui est de la promotion de la confiance aux consommateurs, il y a un commentaire important à faire, à savoir que les consommateurs ne savent pas ce que c'est le juice en ce moment. Et si l'on prend les recherches du juice, les résultats sont difficiles à interpréter. La base en ce moment, et justement que les outils n'aident pas les consommateurs comme il faudrait. Ceci nous amène à la recommandation suivante, à savoir la diffusion au sein de la communauté et ailleurs aussi. Il y a beaucoup de trouvailles sur la précision des données. Je vais donner un détail de tout cela. Si nous parlons des organismes d'application de la loi, de protéger les droits privés, bien que les données doivent être 100% précises ou exactes, ils peuvent travailler avec un moindre niveau d'exactitude s'il y avait un contrat avec le registrant. La seule étude que nous avons pu trouver quant à l'exactitude a été effectuée par NORC, NORC, N-O-R-C, en 2009. Cette étude a montré que plus de 20% des données juice enregistrées étaient, dans ce cas, impossibles de contracter le registrant. Voici un cas où l'intervention stratégique a besoin de beaucoup de ressources pour qu'il y ait 80 ou 100% de précision. Pourquoi ne pas commencer avec quelque chose de juste pour pouvoir contacter le bureau d'enregistrement? Peut-être nous inventons les chiffres. Hein? Nous faisons face à tout cela. Nous l'avons fait pendant un an et puis l'année suivante. Et puis le rapport a établi des unités de mesure. C'est peut-être un objectif difficile à atteindre, mais nous devons savoir où sont destinées nos ressources. Ceci nous amène à la recommandation pour réduire le nombre. Et dans cette diapo, nous parlons des rapports. La suivante a trait au rapport d'État pour mettre à jour l'équipe de révision du juice parce que nous pensons que la prochaine équipe va disposer de ces données qui montrent la progression des travaux au fil du temps. On n'atteindra jamais la perfection, mais si nous allons dans la direction correcte, ça va bien se passer. Un autre aspect, c'est l'écosystème complexe qui est lié au contrat. Dans un monde idéal, nous aurions une chaîne de responsabilité non ambiguë et des droits qui vont dans la même direction. Mais tout cela fait que les gens eux-mêmes doivent se charger des responsabilités, prendre en charge, pardon, les responsabilités. Voici donc un domaine où il faut travailler davantage pour nous assurer d'avoir une chaîne solide vers le bureau d'enregistrement et qu'il y ait des sanctions graduelles susceptibles d'être appliquées. Parce qu'au niveau actuel, les efforts de conformité ont des outils très limités, depuis rien jusqu'à couper tout à fait l'accréditation du registre. C'est un prix trop cher à payer par la personne concernée comme une amende. Nous voulons donc encourager cette culture de la conformité. Les communications sont clés, notamment parce que nous espérons atteindre plus d'un million de registrants, plus de 100 millions, pardon, de registrants. Il y a un document qui va établir un outil de communication efficace pour essayer d'aider dans ces efforts. Si nous regardons le quiz, on voit la précision des données et la disponibilité. Voici les deux sujets clairement établis dans l'affirmation des engagements. L'affirmation des engagements met en relief un souhait ou peut-être une déclaration, je ne sais pas comment très bien le dire, mais les données du quiz doivent être disponibles pour toutes les personnes à tout moment. Toutefois, si l'on regarde le paysage, on voit que pendant la dernière décennie, il y a eu un marché qui est apparu qui offrant des services de proxy. Les proxys sont au lieu des registrants et ils assument des droits et des responsabilités liés au nom de domaine. Les services de privacité montrent le nom du registrant dans le champ du registrant, mais donnent une adresse différente. Ou même ils suppriment l'adresse d'une manière ou d'une autre. Tout cela est fait dans des cadres ad hoc, associés aux grandes entreprises liées aux registrants accrédités, les bureaux d'enregistrement accrédités. Il y a quelque chose de tout neuf dans cet environnement. Nous avons fait une déclaration claire sur le besoin légitime d'avoir des services proxy et des services de privacité, ou même qu'il y a un besoin que les entreprises, les organisations et les individus ne publient pas leurs adresses dans certaines circonstances comme faisant partie de leur nom de domaine. Cependant, s'ils font cela pour équilibrer l'intérêt légitime, il devrait y avoir aussi une route prévisible pour ceux qui ont besoin, comme par exemple les organismes d'application de la loi ou ceux qui appliquent les droits privés, pour que les données soient prévisibles. Et la réponse des services proxy et de privacité en ce moment sont dans ce que nous appelons une lacune de politique, parce que il n'y a pas de pratique documentée, il n'y a pas d'attente applicable à ces services. On parle donc de services très professionnels à d'autres services qui ne donnent aucune réponse. Nous croyons que cela doit être présenté comme une priorité dans notre recommandation. Nous parlons des services de privacité et de proxy de manière séparée parce qu'ils ne peuvent pas être traités de manière individuelle. Et pour ce qui est des services de privacité, ce serait bien d'étiqueter ce service et les fournisseurs devraient être là et devrait être susceptible d'être contacté. Il y a des processus pour établir les points de contact. Il doit y avoir des pénalités graduelles pour ceux qui violent ces exigences. Et il peut y avoir des questions qui sont en dehors de l'accord contractuel. Et il faudrait voir comment résoudre ce genre de questions. Comme nous l'avons mentionné, les services proxy, maintenant que nous admettons leur existence parce qu'ils acceptent plus de 20% des registres, il faut essayer de comprendre l'environnement, de documenter les pratiques existantes, trouver quelles sont les parties intéressées, voir les processus pour avoir un environnement politique approprié. Certains fournisseurs proxy sont liés au bureau d'enregistrement et il faut divulguer tout cela au lieu de notre point de vue. Étant donné que les services proxy ou ceux ayant été développés une politique sont dans un premier temps, il faudrait comme première démarche aller dans les meilleures pratiques et les identifier. Je puis observer que le résultat du rapport de l'équipe de révision, nous passons maintenant de GoDaddy, de Facebook et GoDaddy au développement des meilleures pratiques. Ceci est assez similaire à ce que nous avons dit par rapport à la privacité. Comme nous avons le bénéfice de cet environnement multipartite, nous ne devons pas prendre des mesures contre les registres s'ils ne font pas bien leur travail. Au contraire, il faut donner des encouragements pour qu'ils fassent leur travail, même s'il y a des ressources limitées. Voici ce que j'avais à dire pour les proxys et la privacité. Nous allons maintenant parler de la confiance aux consommateurs. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus, sur qui est le consommateur dans ce contexte. Nous avons décidé de faire une étude pour nous aider à bien voir la situation. Les résultats ont été que la conscience du juice chez les consommateurs est très faible. Il y a une vidéo courte et très intéressante dans nos annexes que je vous recommande de voir. Là, vous pourrez observer la manière dont les consommateurs répondent à la tâche d'identifier le juice derrière un site web. C'est une très bonne ressource et cela fonctionne vraiment bien. Mais ceci ne nous fait pas penser à la recherche du juice. Il trouve que les résultats peuvent être confus. Voici donc un résumé. Je vous encourage à lire le rapport et à voir la vidéo.
Et le plus confus pour les gens qui ne connaissent pas le sujet, c'est le fait que les informations sont confuses pour eux, pour trouver la façon de comprendre ces résultats du JUIS. La prochaine diapo concerne l'amélioration de l'accès pour les personnes qui veulent regarder ce type d'informations. Une chose qu'on a identifiée, c'est que la façon de dire les choses n'est pas très claire et que nous devons améliorer cela. Nous ne suggérons pas des changements radicaux au niveau des politiques ou des changements au niveau de l'initiative des bases de données. Nous voulons tout simplement réviser l'utilisation que l'on fait de toutes les informations que nous avons au niveau des bureaux d'enregistrement. Prochaine diapo. Les noms de domaines internationalisés sont disponibles depuis une décennie. Cependant, ils sont associés non seulement aux noms de domaines internationalisés, mais à tous les autres noms de domaines. Et ces données sont données dans le script local et dans la langue locale. Ce n'est pas encore une forme standardisée de capturer ce type de données. Bien évidemment, lorsque l'on pense aux études menées sur l'exactitude des données, une grande partie des données qui ne sont pas exactes sont le résultat des incohérences qui sortent ou qui sont dues au changement de langue. Tout cela, c'est un domaine sur lequel il nous faut travailler pour qu'il y ait une approche cohérente. Et pour que les solutions ad hoc et les mappings ne soient pas la façon la plus appropriée d'avancer dans ce sens. Il y a 3 recommandations sur les noms de domaines internationalisés. Ici, sur la diapo suivante, le message est le suivant. Il faut trouver la façon de capturer et d'afficher et de présenter ces données et les inclure dans le contrat. Il faut aussi penser si on inclut la langue locale ou la SCI et il faut mesurer nos progrès. Cela nous amène à la fin de notre recommandation. Et je voudrais savoir quelle est la priorité que vous voudriez établir, quels sont les délais, qui doit faire la tâche et comment pouvons-nous faire un suivi des progrès. Parce qu'une fois qu'on publiera notre rapport final, si j'ai bien compris, cette équipe de révision cessera d'exister. À ce moment-là, qui sera responsable de faire le suivi des actions mises en œuvre et comment peut-on mesurer donc les progrès entre le travail fait par cette équipe de révision et une prochaine équipe de révision qui pourrait se mettre en place plus tard et également pour savoir si le conseil d'administration met en place les recommandations faites par cette équipe. Les liens que vous voyez sur l'écran montrent les dates de clôture de l'appel à commentaires. Et maintenant, je suis prête à entendre vos commentaires.
Well, first, congratulations.
Félicitations à l'équipe de révision pour avoir accompli un travail excellent sur un sujet qui a préoccupé cette organisation pendant très longtemps. Je crois que nos collègues seront ravis de faire des commentaires et de vous soutenir pour qu'il y ait une mise en place de ces recommandations. C'est vraiment un excellent travail qui a été fait. Ceci dit, je vois l'Italie qui voudrait prendre la parole. Mes félicitations au groupe de révision parce que c'est vraiment difficile d'ajouter quelque chose de plus à ce que vous avez fait. Or, j'ai deux question de précision à vous poser. Bien sûr, il est très important que les données, que 20% des données du Huis ne sont pas bien enregistrées. Et bien sûr, c'est une question qui nous préoccupe, notamment qui préoccupe les agences de application de la loi. Et un grand nombre des données ne sont pas exactes, mais ce qui est important, c'est la possibilité de pouvoir arriver au responsable final du nom du domaine. Ma question est la suivante. Puisque vous avez parlé aux acteurs dans ce domaine, combien de ces données inexactes sont intentionnelles? Il s'agit d'informations inexactes ou bien d'une intention de faire en sorte que cette information soit inexacte pour ne pas trouver le responsable final du nom de domaine? Voilà la question que je voulais poser. Parce que vous dites, si j'ai bien compris, il y aura des dispositions pour que ce type de données soit réduite de 15%, mais je ne crois pas que ce serait possible en un délai de 2 ans d'arriver à de tels résultats, à arriver à un résultat de 0 erreur. Voilà ma question. Il y a bien sûr une différence entre 0 erreur et un minimum d'erreur. Nous nous focalisons sur le fait de pouvoir identifier les données bidons, disons, et trouver quels sont les enregistrements qui fonctionnent et qui sont exacts pour savoir comment mettre en place ce suivi après par les agences d'application de la loi, etc. Il y a une corrélation entre l'expérience, entre les données inexactes et le comportement. Mais si vous regardez notre étude, il y a plusieurs raisons qui peuvent être à l'origine de ces inexactitudes. Les gens peuvent déménager et ne comprennent pas vraiment l'importance de mettre à jour les informations de manière à ce qu'elles soient toujours exactes au niveau des DNS. Lorsque vous regardez certains des enregistrements ou des registres, et certains de nos collègues disent que, par exemple, certains enregistrements sur Facebook ont la lettre A et c'est tout. Et ils le laissent comme ça. Et ils font rien par rapport à cela. Voilà le problème que nous essayons de résoudre. Peter, je voulais dire pour les collègues qui sont nouveaux, c'est que le GAC a certains principes sur le Whois. Et l'une des recommandations que le GAC a fait, c'est de faire des efforts pour réduire le nombre de données qui ne sont pas exactes. Nous avons essayé de travailler de conformité à ces principes au sein du groupe de travail de révision du Whois. Merci, Peter. J'ai les États-Unis, la Commission européenne et le Royaume-Uni. Merci, Madame la Présidente. Merci, Émilie et tous les membres de l'équipe de révision pour cet excellent travail. Vous n'avez pas encore vu nos commentaires, mais je peux vous confirmer que mes collègues du GAC, j'ai fait circuler les commentaires des États-Unis et j'attends tout simplement une signature pour vous les faire parvenir de façon formelle. Mais tout d'abord, nous félicitons les membres de l'équipe de révision pour cet énorme travail que vous avez réalisé. Nous sommes de façon aussi efficace. Nous avons lu toutes les recommandations et je ne vais pas entrer dans le détail. Mais je voulais juste signaler une question. Tout d'abord, nous soutenons toutes les recommandations et nous ajouterions quelques points, quelques-unes de ces recommandations pour les rendre plus efficaces. Par exemple, la recommandation 16, où vous recommandez les meilleures pratiques. Je crois qu'il nous faudrait vraiment faire une proposition très efficace, peut-être pour que ce soit une exigence. Et en ce qui concerne le fait de savoir si ces erreurs sont intentionnelles ou pas, si on retrouve qu'il y a 150 personnes qui utilisent comme prénom Mickey Mouse, on sait très bien qu'il n'y a pas 150 Mickey Mouse et on doit se rendre compte qu'il s'agit des informations qui sont erronées. Nous pensons que le numéro que vous proposez pour réduire les enregistrements Whois qui ne peuvent pas être connus pourrait être encore diminué. Et nous pouvons donc encourager que cela puisse se passer. Et je voulais attirer votre attention par rapport à la recommandation numéro 8 sur le fait que dans le RAA en cours, les dispositions en ce qui concerne ce qui est exact sont assez souples, ce qui est assez surprenant. Puisqu'il s'agit d'une priorité clé. De notre point de vue, il s'agit d'un point qui doit être corrigé et des négociations sont en cours pour ce faire. Nous pensons que ce que vous dites par rapport à avoir des définitions claires sont bien décrites, la différence en ce qui concerne la portée au niveau des services de proxy et de confidentialité sont bien faites, mais nous voudrions savoir avoir une définition claire. Et bien sûr, aux États-Unis, nous ne permettons pas ni la privacité ou les services de proxy parce que nous pensons que les bases de données devraient être publiques et accessibles pour tous. Nous croyons donc que ce type d'information doit être obligatoire et que les proxys, les services proxy et les services de privacité doivent être obligés de publier ces informations. C'est notre vision des choses par rapport aux services de proxy ou des services de confidentialité. Si vous allez faire des business de cette manière, il faut, si vous êtes le bureau d'enregistrement, vous êtes responsable. Je voulais répondre à des questions que vous avez soulevées. Vous avez constaté une réaction pas très positive de la part du personnel de l'ICANN en ce qui concerne l'autorégulation de l'industrie. Nous avons entendu ce type de commentaires par d'autres voix et nous en sommes préoccupés. Je parle à titre personnel, je m'excuse auprès de mes collègues si vous n'êtes pas d'accord. Je parle du point de vue des États-Unis. Nous voyons l'ICANN comme un organisme qui doit remplir cette fonction parce qu'il passe des contrats entre les bureaux d'enregistrement et les registrants, pardon, entre le registre et les bureaux d'enregistrement. Donc nous ne pouvons pas avoir recours à l'ICANN et en ce qui concerne les contrats, nous devrions pouvoir les améliorer pour corriger cette situation. En tant que GAC, nous prenons conscience de ce problème et il nous faut traiter ce problème lorsqu'on parlera au conseil d'administration cet après-midi. C'est dans cet esprit que nous sommes inquiets. Nous croyons que le GAC doit présenter ses inquiétudes auprès du conseil d'administration pour explorer des possibilités et de résoudre cette situation. En ce qui concerne les LEA, le GAC partage cette approche, mais du point de vue de l'application de la loi, il s'agit de quelque chose qui fait partie du gouvernement. Ils sont des partenaires du GAC dans la mesure où on cherche des solutions communes. Il y a une très bonne équipe donc, qui a travaillé et s'il le faut, il faudrait peut-être prévoir dans l'avenir des mesures pour que ces organisations d'application de la loi puissent y participer. De façon à pouvoir identifier des réunions GAC, ICANN dans l'avenir qui nous permettent de mieux nous préparer pour résoudre des questions qui sont clés pour nos agences d'application de la loi. Nous devons planifier en avance. Des contributions peut-être au niveau de voyage pour que les LEA puissent participer de nos réunions car ils contribuent à mieux comprendre le problème. Les CAN, les registrants et les bureaux d'enregistrement. Je voudrais finir mon intervention en disant que aux États-Unis, et je crois qu'un grand nombre de mes collègues ici présents, nous voyons un lien entre les recommandations LEA pour améliorer les RRA, les excellentes recommandations par rapport au RUIS et l'application de la loi et la conformité. Nous voudrions donc mettre l'accent sur le fait que la fonction de conformité doit se voir accorder une priorité stratégique plus élevée. Pour ce faire, les contrats en cours doivent être retravaillés. Les contrats doivent être améliorés. Nous sommes plusieurs à penser la même chose car la fonction de conformité ne sert à rien si le contrat n'est pas bien fait. J'aimerais donc soulever ce type de question auprès du conseil d'administration pour qu'il puisse faire l'objet d'un suivi. Je vois qu'il y a des personnes qui sont d'accord avec moi. Nous avons notre collègue du Federal Trade Commission. Peut-être qu'elle pourrait prendre la parole pour vous faire passer un message. Bonjour à tous. Je suis Julie Breu. Je travaille dans la commission des États-Unis qui s'occupe du commerce. Le Federal Trade Commission est une commission indépendante. Nous ne faisons pas partie de l'administration des États-Unis. Nous sommes la première agence de protection des consommateurs aux États-Unis et nous sommes aussi l'agence de conformité par rapport à la confidentialité. Nous sommes l'organisation qui a été admise par les États-Unis dans la Conférence internationale de protection des données et de confidentialité. Nous avons donc travaillé avec un grand nombre de vos collègues et un grand nombre de vos États en matière de questions liées à la confidentialité, à la protection de données et en matière de coopération internationale sur la protection des droits du consommateur. Sous cette perspective, je voudrais faire des commentaires pour soutenir de façon très ferme le travail de cette excellente équipe de révision qui a présenté un rapport excellent et je soutiens le travail fait par ma collègue Suzanne qui soutient à son tour le rapport présenté par l'équipe de révision. Nous apprécions le grand travail fait par ce groupe de travail qui a compris profondément les enjeux de ce type de questions. Ils ont fait un travail excellent et nous pensons que les recommandations sont de nature à augmenter la responsabilité de l'ICANN et à augmenter l'exactitude des données du JUIS. Cela est très important du point de vue de l'application de la loi, mais aussi du point de vue du consommateur. Le concept de transparence est très important pour les consommateurs. Les questions clés que nous voyons dans ce rapport et que nous soutenons porte sur le fait que l'ICANN doit assurer qu'il y ait suffisamment de ressources pour que la base de données de JUIS puisse avoir des données exactes qui permettent de faciliter le travail de conformité. Les recommandations nous donnent des ressources. Les recommandations concernant les ressources monétaires et humaines sont très importantes, ainsi que la création de dispositions contractuelles claires pour renforcer la responsabilité. Un autre point clé. Nous sommes donc très contents de ce rapport. Nous le soutenons et nous félicitons l'équipe pour le grand travail qu'elle a réalisé. Merci, États-Unis. J'ai la Commission européenne après. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, moi aussi, je voudrais remercier l'équipe de révision pour un travail impressionnant, remarquable. Je ne veux pas être critique, mais vu les standards de cette organisation, le travail est encore plus remarquable. Je voudrais remercier tout spécialement notre collègue de l'Australie qui a maintenu le GAC très bien informé par rapport aux progrès et aux discussions qui avaient lieu au sein de ce groupe de révision. En ce qui concerne le rapport lui-même, je n'ai pas de commentaires. Nous avons lu le rapport et nous allons vous faire parvenir nos commentaires très prochainement. Nous voulons que tous les directeurs de la Commission européenne soient en mesure de pouvoir exprimer leurs commentaires. C'est pour ça que nous vous les adresserons plus tard. Des commentaires préliminaires que je voudrais vous faire parvenir en ce moment. Je suis surpris de façon pas positive par la description que vous faites, que vous avez fait du personnel de l'ICAN qui travaille pour la conformité. On pourrait croire que la fonction de conformité n'a pas suffisamment de personnel et n'a pas suffisamment de pouvoir de réaction. Je pense que tout le monde dans cette organisation travaille de façon à essayer de réagir à temps. Et ça, ça s'applique non seulement au GTLD, mais aussi, comme l'a dit notre président, notre position en ce moment, c'est que la conformité fait partie de la réflexion générale sur la façon dont la structure de l'ICAN doit s'améliorer au niveau de son fonctionnement. C'est un aspect sur lequel il faut être très attentif et je vous remercie du travail que vous avez fait par rapport au quiz. Nous soutenons fermement les recommandations concernant la diffusion. Je peux parler au nom de la Commission européenne. Il y a un grand nombre de personnes qui n'ont aucune idée de ce que c'est que le quiz, y compris des organisations qui croient connaître ce que c'est, mais ne le connaissent pas vraiment. Je ne vais pas vous donner des noms, mais il y a des organisations qui n'ont aucune idée de ce que c'est que le quiz ou de comment cela fonctionne. Cela est très inquiétant. Et en ce qui concerne les collègues qui travaillent dans ces organisations, j'ai tendance à penser qu'il faut faire davantage des efforts de la part des CAN et que cela pourrait être utile. Finalement, il y a une question que j'espère avoir compris correctement. Vous avez indiqué qu'il faut encourager aussi ou donner des encouragements au bureau d'enregistrement pour qu'ils puissent nous informer par rapport à ces informations exactes. Il faut penser à une façon de parvenir à une certaine confiance globale. Il y a un pourcentage d'enregistrement correct au niveau de Ruiz et donc on pourrait penser à des encouragements pour que cela puisse augmenter. Finalement, cela a été décrit par mon collègue des États-Unis. L'application contractuelle est un élément clé. Je ne suis pas sûre que nos commentaires seront prêts pour après-demain, mais nous aimerions explorer toutes les possibilités en ce qui concerne les encouragements que nous pourrions mettre en place pour encourager l'exactitude du quiz. J'aimerais répondre à la dernière question. Merci à tous pour vos commentaires. En ce qui concerne ces encouragements dont il est question, il y a un grand travail à faire. Nous savons quel est notre mandat. Et nous nous appliquons à toujours rappeler que notre travail n'est pas de créer la politique, mais plutôt de la réviser. Et donc les différents niveaux de conformité, les garanties, etc., sont clairement compris dans les encouragements. Il est plus difficile de penser aux pénalités. J'encourage donc la communauté, si l'on met en place cette recommandation, à travailler en commun avec les bureaux d'enregistrement et les registrants pour créer un dialogue et voir quels sont les meilleurs encouragements de ce point de vue. Merci, Commission européenne. Merci, Émilie, pour cette remarque. J'ai au moins deux demandes de prise de parole. Je ne sais pas si on aura le temps. Je suis sûre que l'équipe de révision voudra nous parler un petit peu plus.
Cela est important et nous voudrions continuer avec cela. Tout d'abord, le Royaume-Uni et puis l'Estonie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Émilie, du fait de vous présenter aujourd'hui dans cette salle et de nous rappeler les points fondamentaux de ce rapport. Je remercie Peter également de sa contribution à la rédaction du rapport. L'affirmation des engagements a dit identifier cela comme quelque chose qu'il faut aborder après une période aussi longue de déviation des politiques et une résistance de la communauté pour faire quelque chose là-dessus. Nous n'avons pas vu la réponse du Royaume-Uni. Elle est presque prête. J'espère bien pouvoir la finir pendant le temps libre. Et le temps libre est quelque chose de très important et c'est en quelque sorte un défi, mais on va essayer de respecter les délais. Pour ce qui est de l'emphase, tout d'abord, je dois dire que nous soutenons toutes les recommandations qui ont été très bien identifiées, les cours d'action établis, la manière dont ils ont été présentés dans le rapport. Pour ce qui est de l'emphase, finalement, établir cela comme une priorité stratégique est quelque chose de crucial. Et nous voulons demander au Conseil de faire cela lors de la prochaine réunion de l'ICANN à Prague, ainsi que lui demander de nommer quelqu'un pour être responsable et qu'il puisse contrôler que le travail soit fait correctement. J'ai une question. Vous considérez que cette considération du juice ou si quelqu'un qui est à charge de la tâche de mise en place et de contrôle, cette personne doit être externe ou elle doit appartenir à l'ICANN? Vous avez considéré cela comme une option et la raison pour laquelle je me demande cela, c'est que compte tenu de ce que je viens de dire de cette déviation si longue, eh bien, je me demande si cela suggère un blocage institutionnel et si et il faut parvenir à ce que cela soit débloqué par quelqu'un peut-être externe à l'organisation pour faire valoir les actions. Deuxièmement, les objectifs. Voilà, j'insiste sur les objectifs, mais je crois que ces objectifs sont appropriés et il faut les établir le plus vite possible. Je crois que les bureaux d'enregistrement apprécieraient cela, certainement, si la tâche est établie au plus vite possible en termes d'objectifs. Nous parlons d'une gamme de facteurs et on se demande pourquoi il y a tellement de données juif incorrectes qui ne servent pas. Hier, j'ai participé d'une session sur l'accord des bureaux d'enregistrement et là, il a été dit qu'il existe un problème très important auxquels ils doivent faire face. On parle maintenant des consommateurs qui achètent des domaines. Bien que ces consommateurs puissent acheter des informations personnelles dans un point de vente, comme par exemple les cartes de crédit, etc., lorsqu'il s'agit de donner des informations qui vont dans une base de données disponible publiquement, ils disent, eh bien, moi, je ne veux pas cela, moi. Je ne veux pas que mes données personnelles soient disponibles de cette manière, notamment si cela arrive dans des adresses de contact, etc. Il existe une culture générale, une résistance généralisée au sein de la société pour éviter que ces données soient logées dans cette base de données. Voici le problème auquel ils doivent faire face. Il est difficile de convaincre les gens de libérer ces données, de divulguer ces données pour cette utilisation. Il y a une peur généralisée. Les gens pensent que ces données peuvent faire l'objet d'abus, etc. Je me demande quelle est votre réaction à cette description de la situation présentée par l'un des bureaux d'enregistrement hier. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais répondre aux deux questions. Premièrement, la question portant sur le fait que la fonction de conformité est mieux faite de manière externe ou interne. Voici une question intéressante que nous avons commencé à explorer après la publication de la version préliminaire du rapport. On peut voir les bénéfices des deux possibilités. Et sans faire d'invitation personnelle aux membres de l'équipe de l'ICANN, il y a un problème de structure, peut-être, dans le sens qu'il y a beaucoup de membres de l'industrie qui paient le chèque lorsqu'ils prennent des actions de conformité effective. Il y a pourtant des environnements où ça fonctionne vraiment bien. D'autre part, je vois Franck de la Nouvelle-Zélande qui propose une solution structurelle pour ce qui est des GTLD de la Nouvelle-Zélande, où il y a une commission qui n'appartient pas à l'environnement, mais qui est en dehors de cet environnement. Il y a un ensemble de solutions, et je crois qu'une considération adéquate de la mise en place effective de cette recommandation devrait inclure la manière d'évoluer dans ce sens. Voici la raison pour laquelle nous allons revenir à ce sujet. Je vous remercie de l'avoir mentionné. Vous avez également mentionné si la publication des données WHOIS, c'est un désencouragement pour que les gens présentent des données précises. Je sais que cela pourrait se passer comme ça, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait des données ou des recherches spécifiques ou des études sur l'utilisation inappropriée des données. Nominet a fait une étude où l'on compare les données du WHOIS non publiées pour les comparer avec les données normales. Et je ne suis pas sûre, mais je crois que ils ont trouvé que ce qui était caché était plus précis. C'est quelque chose à en tenir compte au fur et à mesure de nos progrès. Cathy et le vice-président voulaient parler. Je veux faire un commentaire très bref sur l'atmosphère, sur le climat de l'ICANN dans ces derniers temps. J'ai participé des débats du WHOIS pendant la dernière décennie et il y a des collègues qui ont consacré plus de 10 ans à cette question-là. Les conflits au sein de l'ICANN pendant les 10 dernières années ont eu des bonnes intentions et ils ont été faits de bonne foi. Dans le monde réel et dans les gouvernements où vous participez, il y a un équilibre entre l'application de la loi et les questions de privacité qui sont équilibrées par les lois et les mœurs. C'est quelque chose de très difficile à traiter au sein de l'ICANN. Il faut avoir beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances. Et si vous aimez le rapport de l'équipe Ruiz, vous devez savoir que ceci arrive de différentes parties de la communauté de l'ICANN. Et nous pouvons nous montrer ce que nous avons appris pendant les dernières années. Merci, c'est très encourageant. L'Estonie a la parole. Merci. Comme nous n'avons pas trop de temps, je vais essayer d'être bref. Tout d'abord, je remercie le travail effectué par l'équipe de révision parce que la précision du juice a résolu pas mal de problèmes affectant la cybersécurité vers l'avenir. Ma question est la suivante. Vous avez impliqué la communauté bancaire dans ce processus au fur et à mesure de la rédaction du rapport. Je dirais que lors des derniers 20 ans, la communauté bancaire, les banques tout court, ont fait face à des programmes similaires qu'ils ont pu résoudre. C'est-à-dire, il y a des paquets de recommandations, par exemple 40 recommandations pour éviter le blanchiment d'argent et les actions terroristes qui ont été présentées par les pays du G8. Il y a aussi des recommandations sur la précision des données, sur l'exactitude des données. Il y a des programmes similaires qui ont trouvé une solution à ces problèmes dans d'autres communautés. Je me demande si vous avez consulté la communauté bancaire pendant le processus de cette équipe de travail. Merci. Merci. Pour répondre à votre question, et je tiens à vous remercier de votre question, je voudrais passer la parole à mon collègue Delsby de l'équipe de révision. Je vais être bref. J'ai participé de l'équipe de révision comme membre indépendant. Avant, j'étais employé de PayPal. Je sais que PayPal n'est pas une banque, mais on transfère de l'argent. Et nous sommes sujets à beaucoup des régulations que vous avez mentionnées. Je dirais donc que, en effet, certains points qui apparaissent dans les services financiers ont été représentés. Si nous considérons l'idée qu'il fallait présenter cela au moment opportun, on a pris compte de ces questions, mais on n'en parlait pas trop. Du côté de PayPal, je donne mon soutien à toutes les recommandations que nous avons faites. On a parcouru un long chemin pour assurer la cybersécurité. Merci, Bill. La Chine a la parole maintenant. Je viens de la Chine. Nous remercions les efforts de l'équipe de révision du JUIS pour améliorer les politiques actuelles du JUIS et nous reconnaissons également que cela est nécessaire au sein de l'équipe pour maintenir la confiance globale du consommateur. Si nous révisons l'équipe finale, nous soutenons les recommandations et ici, je voudrais présenter quelques pratiques que nous utilisons en Chine. Nous avons une organisation dénommée CENIC qui est à la charge de l'opération de point CN et avant l'an 2009, l'information exacte sur les bureaux d'enregistrement était de 40 % depuis 2009. CENIC a commencé à adopter de manière proactive les approches de l'amélioration du JUIS à travers le pré-enregistrement. Et à ce jour, Le taux d'exactitude est de plus de 99 %. Cela nous aide au sein du CENIC pour qu'il y ait plus de confiance du consommateur et éviter l'abus des noms de domaine. Bien entendu, ceci a le coût que l'enregistrement a diminué de 30 millions à 3,3 millions. Mais ceci laisse un espace pour l'amélioration. Les problèmes actuels auxquels nous faisons face consistent à ce qu'il y a certains TLD qui n'ont pas respecté la politique d'exactitude du JUIS. Il n'y a aucun critère défini pour évaluer l'application des directions au niveau global. Il est donc très important que les communautés collaborent dans ce domaine pour pouvoir consolider les politiques afin que le JUIS soit vraiment efficace. Je considère que le rapport de l'équipe de révision est vraiment très bien fait parce qu'il nous donne la possibilité ou le chemin plutôt pour arriver à notre objectif. Merci beaucoup. Merci. Je ne vois pas des demandes de parole. Il y a clairement un intérêt très important. Et pour ce qui est de la mise en place de ces recommandations, j'encourage donc les membres du GAC pour voir ce que nous voulons faire en tant que comité pour ce qui est des recommandations, du suivi, etc. Une question que j'ai à poser à l'équipe de révision, c'est si vous allez faire des commentaires sur la nature de l'équipe comme un ou comme quatre et la manière de capturer l'expérience et apprendre de l'expérience de cette équipe de révision. Merci. Heather, nous n'avons pas encore étudié cela. Nous avons quelques semaines de travail additionnel. Nous en avons parlé. Et la raison pour laquelle nous posons cette question, c'est pour faire tout le possible pour ce processus de déclaration d'engagement dans le délai le plus long possible, conjointement avec les présidents des autres équipes de révision qui ont déjà délivré leur rapport, nous pouvons unir nos efforts et élaborer certaines suggestions. Je parle à titre personnel, je pense à haute voix, à vrai dire, mais je crois que le service peut être très utile à la communauté si l'on réussit à faire ce travail. Nous vous félicitons encore une fois de votre travail, de vos efforts. Le résultat a été très, très solide et aujourd'hui, vous avez entendu le travail, vous avez connu le travail de plusieurs collègues. Nous tenons à remercier le travail réalisé et je vous rappelle que tout cela est un travail bénévole, beaucoup d'heures consacrées à travailler au sein de l'équipe pour arriver à un consensus sur le résultat d'une question vraiment complexe. Je suis vraiment impressionnée. Je tiens à vous remercier encore une fois au nom du GAC de vos efforts. Merci beaucoup.
For the GAC, we are going to...